Alors, je vous annonce déjà, vous qui êtes au-devant, je suis en forme. Normalement, quand je suis en forme, on voit des postillons jusque toi, Tom. Alors, après avoir prêché, je vais compter des postillons dans tes cheveux pour voir si j'ai bien prêché ou non. Ça va? Non, je plaisante. Le Seigneur, il est bon. Il est là. Il est présent. À mon avis, il y en a qui ont traîné des chaînes ici dans la salle, qui vont les laisser, qui vont partir d'une autre manière. J'aime bien un vieux chant qui dit, vous n'allez pas partir de la même manière que vous êtes venu. Amen. Et je crois que chaque fois qu'on vient à la maison du Seigneur, on reçoit quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas partir de la même manière que vous êtes venu. Alors, j'aimerais bien que vous m'aidiez, parce que j'annonce, si quand je prêche, vous dites beaucoup « Amen », je prêche seulement 30-35 minutes. Si vous ne dites pas « Amen », je prêche 2 heures. Alors, je croyais, bon, vous dites, David, avec ce challenge, on va bien dormir. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. J'aimerais bien vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années de cela. Quand j'étais au Luxembourg, quelqu'un m'avait donné une paire de chaussures de sport, des baskets. Je ne sais pas si c'était des Air Jordan ou quoi, mais puisque un ami avait un garçon qui grandissait très, très vite. Enfin, il les a portés un peu de temps, mais puis il a tellement grandi que ses pieds étaient trop grands pour les chaussures. Il dit, David, est-ce que tu aimerais bien ces chaussures? Je vous dis, je n'ai jamais eu une paire de chaussures comme ça. Solo, ça a duré. J'avais 100 000 km sur les chaussures. 200 peut-être pas autant, mais quand même beaucoup de kilomètres sur ces chaussures. Je jouais au basket, je courais, je faisais de vélo, tout. Et je me dis, oh là là, quelle paire de baskets! À la fin de la vie, quand vraiment ils sont fichus à la fin, je vais leur donner un enterrement militaire. Je vais tirer mon fusil de chasse 10 fois en honneur de ces chaussures. Mais je vous dis, à la fin de la vie de ces baskets, c'était un peu comme, l'odeur était tellement forte, au lieu d'un enterrement militaire, je les ai emmenés au dépôt de déchets toxiques pour, peut-être pas jusque-là, mais vous auriez dit des déchets toxiques, ça, il y avait une odeur terrible. Et est-ce que j'ose dire qu'il y a des chrétiens qui ont des pensées qui sont toxiques dans le cœur, dans leur pensée. Et leur vie est pourrie par ces pensées toxiques. Ce matin, j'aimerais bien vous parler de la bataille de votre pensée. L'enjeu de cette bataille est terrible. Je vous raconte une histoire et puis on va lire le texte. Les enfants d'Israël sont arrivés au bord du pays de promesse. Là, Dieu leur avait dit, vous aurez un pays incroyable. Alors, Moïse, il a choisi 12 espions. Ils sont allés dans le pays pour un peu voir ce qu'il y avait et comme ça. Alors, ils sont allés, voilà, les villes étaient grandes et belles. Il y avait même des produits d'agriculture qui étaient terriblement grandes, des grappes de raisins qui étaient tellement grands qu'il fallait 2 personnes qui pour les porter sur une perche entre deux. Et ils ont vu des choses formidables. Quel pays! Mais il y avait 10 espions qui ont vu, vraiment, vraiment vu autre chose. Et 2 qui ont vu une autre chose. Des 10 ont vu des géants. Oh, nous ne pouvons pas. Oh, j'ai peur, ces gars-là, ils sont grands. Ils ont des épées longues. Ils ont des lances pointues. Oh, ils ont des chariots. On ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'imagine le représentant de Rubin et Simeon qui parlaient ensemble. Oui, c'est beau, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on va faire? C'est impossible. Nous ne pouvons pas. Et puis, ils sont arrivés à Hébron, là où habitaient les fils d'Anak, les géants. Et là, les autres, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui a pris Moïse pour nous emmener dans un tel pays? On ne peut pas, c'est impossible, impossible. Et il y en avait 2, Caleb, surtout qui a vu la ville de Hébron qui était bien, qui était grand, qui était fortifiée, qui était tellement bien placée dans les montagnes. Il a dit, là, c'est le mien. Là, c'est le mien. Et les autres disent, à part Josué, tu le prends parce qu'il y a des gens qui habitent là. On ne peut pas. C'est impossible. Et tout le chemin de retour, avec les raisins incroyables, des raisins comme des melons, je suppose, des gros raisins, tous les produits du pays, toutes les belles choses qu'ils ont vues. Ils ont... On va être tués. Il va nous tuer. Nous sommes cuits. Tout le chemin. Ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Sauf qu'il est arrivé de haut. Gloire à Dieu, car il nous tend la victoire. Josué, t'as vu où cette ville? T'as vu Hébron? Arrête, Caleb, tu parles que d'Hébron. Moi, j'ai vu une autre ville là, qui sera la mienne. Oui, mais ça va. Mais, et c'était content. Ça tournait en rond, ça tournait en boucle. Notre Dieu est grand. Il va nous donner le pays. On va vaincre les gens. Ça va. Et les autres. Sont arrivés à Moïse. Josué et Caleb. On y va. On va les vaincre. Waouh, quel pays. Et les 10 espions. On ne peut pas. C'est impossible, il va nous tuer, c'est terrible. Ça rime, n'est-ce pas? Possible, terrible, c'est bien ça, je vais écrire ça un jour. Mais là, ils ont fait tomber des millions de personnes avec leur mauvaise pensée, avec leur pensée toxique, parce que c'est communicable, les pensées. C'est communicable, les pensées. Mais Caleb, il était différent. Le texte là, quand on lit Nombre chapitre 14, verset 21, mais je suis vivant, c'est Dieu qui parle. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça, c'était des millions. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Alors, mon ami, l'enjeu, comme je vous ai dit, est terrible ici. Ce n'est pas seulement vous qui êtes en question. Si vous laissez ces pensées toxiques, qui est contre ce que Dieu a dit dans sa parole pour votre vie, si vous laissez ces pensées toxiques prendre le dessus de votre vie, ce n'est pas seulement vous qui êtes empoisonné, mais votre entourage. Et vos amis, gens de travail, votre mari, votre épouse, vos enfants, tout le monde est touché par vos pensées toxiques. Mais si vous êtes comme Caleb et vous êtes plein de foi, bien que la situation ne soit pas facile, là, ça touche toutes les générations qui suivent. Ce n'est pas seulement vous qui êtes bénis par vos pensées de santé, par vos pensées de foi, par vos pensées de courage, mais ce sont vos enfants aussi. Caleb, il avait une fille exactement comme lui. Là, si vous lisez Juges, Caleb, il a dit à quelqu'un, écoute, moi, je donnerai ma fille comme femme à la personne qui prend, je crois que c'était la ville de Hébron. Ça, c'était plus tard. Alors, celui-là, le garçon, il voulait bien, alors il a pris ses hommes, il a pris la ville, il a eu la fille. Et puis, la fille lui a dit, écoute, papa nous a donné un champ, mais il n'y a pas de l'eau. Alors, va demander à papa de l'eau et pour notre champ. Et lui, il n'avait pas peur des géants, mais il avait peur de son beau-père. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Vous n'avez peur de rien sauf votre belle-mère? Beau-père, excuse-moi. Mais vous êtes là. Et Lui, il ne voulait pas, mais la fille, elle est venue. Elle a demandé, elle a dit, papa, donne-moi des sources d'eau. Et papa n'en a pas donné une, il lui a donné deux sources d'eau. Elle était courageuse. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans un foyer où les pensées étaient pleines de foi en Dieu. Comme Caleb a dit, nous pouvons le faire. Et les autres ont dit, non, nous ne pouvons pas. Ils sont tombés dans le désert, ces hommes-là. Les enfants, heureusement, ont vécu autre chose. Mais quelle était la différence? Mes amis, pour nous, c'est indispensable d'avoir une attitude intérieure, une mentalité, des pensées qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu et la foi en Jésus. C'est indispensable, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et ceux qui sont autour de nous. Alors, vous savez aussi bien que moi, je doute qu'il soit une seule personne ici qui n'a pas eu un combat avec ses pensées. Beaucoup d'entre nous, même aujourd'hui, chrétiens, nous aimons le Seigneur, mais des fois, il y a des choses qui tournent en boucle dans notre esprit, qui nous détruisent, qui nous fatiguent. On se lève le matin, on est déjà fatigué parce que ça tourne. C'est le même chant qui... Est-ce que ça vous arrivait jamais d'avoir un chant qui ne vous quittait pas? Moi, j'en avais, c'était de l'église, c'était un chant très, très beau. J'ai chanté ce chant, et puis la nuit, je me suis réveillé, ça tournait, et le jour suivant, ça tournait, et le jour suivant, ça tournait. Je suis devenu presque fou avec ce chant. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, c'est un beau chant, mais arrête-le, hein, parce que là, où. Mais des fois, le pire, c'est que dans notre esprit, il y a ces pensées de jalousie. Il y a ces pensées de crainte, qu'est-ce qui va arriver? Il y a ces pensées de frustration. Il y a ces envies d'autres choses que nous ne croyons pas que nous allons avoir. Toutes sortes de choses, ça tourne dans notre esprit, ça tourne dans notre esprit, ça pourrit notre vie. Ce sont, et si j'ose dire, ce sont des pensées toxiques, pourries, qui pourrit ta vie, et qui rend tout l'entourage toxique. Alors, je ne sais pas vous, si je le prêche, c'est parce que moi aussi, j'ai vécu combien de fois. C'est une bataille constante chez moi. De guerriers. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils sortent de le moment et disent, « Bonjour, monsieur le médecin, comment ça va? Je peux vous vendre quelque chose? Vous aimeriez bien acheter? » Ils sont positifs, toujours, hein, même en temps. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes... Aïe, 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 encore, c'est le réveil qui sonne. Aïe, 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 le patron, aïe. Et vous savez, d'être positif, d'être plein de foi, c'est un acte que nous faisons, que nous prenons de notre propre gré. C'est pas qu'on croit, oui, Jésus est là, maintenant je vais avoir la paix toute seule, je vais avoir la joie toute seule. Non! Souvent, il faut déblayer, le chemin. Il faut vraiment arracher des mauvaises herbes du terrain que le Seigneur nous a donné. Bien que nous soyons chrétiens, c'est tellement souvent, le jardin, c'est plein de mauvaises herbes, c'est plein d'escargots. Combien d'entre vous, vous aimez bien faire des jardins? Laisse-moi voir la main. Oui, quelques-uns, quand même, hein, vous les pauvres. Moi, c'est contre ma religion faire des jardins, presque. Hein. Parce que mon papa, c'était un maître d'esclaves, il m'a obligé de travailler dans son jardin quand j'avais ton âge. C'est terrible, n'est-ce pas, d'être obligé de travailler dans le jardin. Et il dit, mais toi, je rouspétais, il dit, toi, mais tu vas aimer ce qui sort du jardin. Mais quand tu as 8 ans, les tomates, les oignons, les haricots verts, tout ça, non, mais tu vas... Mais papa l'a dit. Alors, moi, j'aimais pas trop le jardin. Mais j'ai appris une chose. Si vous laissez le jardin tout seul, vous savez ce qui va pousser? Des haricots, des tomates, des oignons, et les mauvaises herbes, et les escargots. Je ne sais pas si ça pousse de la terre ou quoi, mais les escargots, ça vient d'un peu partout. Si tu ne fais pas quelque chose, les mauvaises herbes et les escargots vont manger votre jardin. Et vous aurez faim. Et beaucoup de chrétiens, ils croient le seul fait d'avoir mis la confiance en Jésus, ça fait en sorte qu'ils n'auront jamais de découragement. Ils n'auront jamais une bataille avec la jalousie, jamais une bataille avec le doute, l'orgueil, toutes sortes d'attitudes intérieures. Mes amis, il faut que nous prenions le territoire qui est notre cœur. La Bible dit, par-dessus toute chose, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moïse a dit aux enfants d'Israël, parce que tu ne seras pas reconnaissant. Toutes ces malédictions vont tomber sur vous. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être reconnaissant dans le cœur, ils rouspétaient, ils réclamaient, ils n'étaient pas contents et Dieu ne pouvait pas les bénir comme il voulait. Et combien de fois c'est comme ça avec nous? Quelle était la différence entre Caleb et Josué et ces autres enfants d'Israël? C'était du même pays, de même race si vous voulez. Ils avaient le même Dieu. Ils avaient tous vu la gloire du Seigneur, des miracles qu'on personne n'ait jamais vu auparavant. Ils avaient tous vu ça. Mais il y en avait 10 qui étaient négatifs et 2 qui avaient foi en Dieu. Quelle était la différence? Moi, je crois. Je crois que c'est parce qu'ils ont travaillé le jardin de leur cœur, Caleb et Josué. La Bible dit, ayez en vous. C'est Philippiens 2 et 5. Et j'aimerais bien aussi que vous preniez des notes parce que ce sont des pistes de réflexion et je crois que si vous réfléchissez, le Seigneur va changer ta vie. Hein? C'est un commencement. Si vous prenez, écoutez ça et vous partez, vous oubliez, ça ne va rien faire. Alors prenez des notes. Une fois, j'ai regardé ma femme, elle était là juste au premier rangier, elle était en train de prendre des notes et je me dis, oh là là. Ça fait à l'époque 35 ans de mariage à peu près. Elle prend toujours des notes quand je prêche. Et après, je dis, ah chérie, je voyais que tu prenais des notes. Et elle dit, oui, oui, quand je prends des notes, je ne dors pas. Alors, il y a plusieurs dans la réunion qui ont besoin de prendre des notes. Amen. Vous donnez un coup de coude à votre voisin, votre voisine, comme ça, à droite et à gauche maintenant. Alors, tout le monde est réveillé de nouveau. Comment changer cet intérieur, vos pensées, vos attitudes, les paroles de la bouche et les méditations de ton cœur? Parce que devant Dieu, nous sommes responsables pour ce qui sort de notre bouche. Nous sommes responsables pour les méditations de notre cœur. Ouh là là! C'est fort ça, parce que David, le psalmiste, il a prié que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptées devant toi, Seigneur. Alors, comment le faire? Ayez ces sentiments au Christ Jésus. Romains 12 et 1 et 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. Soyez transformés. Il y a des émissions dans la télévision où les gens ils prennent des vieilles maisons, ils les transforment, ils les renouvellent. Vous savez, moi, j'ai dit, bon, ça sera chouette, mais je ne sais pas si c'est... Mais chez moi, Dieu est en train de me transformer. Amen. Et vous, est-ce qu'il vous transforme? Alors, à l'extérieur, j'ai une mauvaise nouvelle, comme je vous ai déjà dit, vous les jeunes, vous croyez que vous serez toujours comme ça, mais ça ne va pas dans un bon sens. Un jour, vous les jeunes, vous allez vous réveiller, et voilà un cheveu gris, et puis une ride, et puis tout commence, ça tombe les cheveux, et puis les rides sont un peu partout, et les douleurs, et ça, et puis à la fin, vous finissez à la maison de retraite, en train de, vous savez comment. Alors, physiquement, ça ne va pas dans un bon sens, mais spirituellement, vous devez me voir. Je suis beaucoup plus fort qu'il y a 30 ans de cela. Je suis beaucoup plus fort que j'étais parce que je suis en train d'être transformé. Est-ce que tu n'as plus d'épreuves, David? Si, parce que des épreuves que le Seigneur me donne sont beaucoup plus grandes des fois qu'il y a 30 ans. Alors j'ai besoin d'être plus fort dans le Seigneur, mais vous aussi. Parce que si vous combattez toujours les combats d'un petit enfant, vous n'êtes pas utile pour le royaume de Dieu. Dieu veut que vous soyez fort pour que vous puissiez abattre les géants qui sont contre vous. Alors d'abord, vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose. Les issues de la vie, ta vie, se passent dans tes pensées, dans ton cœur, au plus intime de toi-même. Et toi, tu peux faire une différence en ce que tu es. Paul a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, écoute, et nous emmenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Ça, c'est difficile. parce que j'ai beaucoup, beaucoup de pensées. Et vous aussi? Bon, il y en a qui n'ont que trois pensées dans la journée. Manger, manger, manger. Ça, bon, ils ont une autre, dormir. Alors, ils ont quatre pensées toute la journée et c'est tout. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a un peu plus que ça. Et ça tourne dans l'esprit, là. Des pensées, des réflexions. On a une opinion. Il y a des milliers. C'est comme des moustiques ou comme ça qui volent dans tous les sens, comme des trucs qui rebondent des parois de l'intérieur de notre tête. Et on dit, oh là là. Il y en a qui aimeraient bien faire clic. Et ça arrête pour un moment. Mais vous savez, je crois qu'il y a une puissance en Dieu, que votre pensée soit renouvelée. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai fait le combat tous les jours de ma vie. Mais je sais que c'est possible parce qu'il a dit que nous pouvons emmener toute pensée à la captivité de Christ. Nous pouvons prendre ces pensées qui ne sont pas dignes. Nous pouvons prendre ces pensées de crainte, de peur, de jalousie, de colère, de frustration. Nous pouvons les emmener captifs, les mettre à la porte et pouf! Comme un bon gardien, on va leur donner un coup de pied loin de nous. Et quand ils reviennent, on aura déjà quelque chose dans notre tête. Excusez-moi, mais il n'y a pas de place pour vous ici, parce que je suis en train de réfléchir sur ce qui est bon, sur ce qui est digne de confiance, digne de louange. Je suis en train de penser du bien à mon frère, ma sœur. Écoute, comment le faire? Comment le faire? Des fois, nous sommes tellement allés dans ce sens-là que la délivrance, c'est très, très difficile, mais ce n'est pas impossible. Des fois, nous sommes prisonniers de notre pensée. Il y a des gens qui ont eu une colère, 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 et à la fin, ils ont trouvé que le colère les avait. Au début, ils avaient la colère, mais après, c'était la colère qui les avait. Il y avait des personnes qui ont été jaloux. Ils ont eu une jalousie, une jalousie, une jalousie jusqu'au jour que la jalousie les avait. Et ça déformait toute la pensée, ça déformait la façon de le voir. Parce que tu vois, à la fin, les pensées de ton cœur sont ce qui détermine comment tu vois le monde. C'est pour cela que Caleb et Josué, ils ont vu la promesse de Dieu et les géants qui étaient bien là, mais un Dieu qui était beaucoup plus grand que les géants. Les autres ont vu la promesse de Dieu en tout petit, mais les géants, ils n'ont même pas pensé à leur Dieu qui était tellement fort. Voyez, les pensées sont des choses qui déforment votre manière de voir le monde. Et c'est à vous de décider ce qui se passe dans ta tête, dans ta pensée. Alors, il faut dire, Seigneur, non, non, non. D'abord, certains d'entre nous avons besoin de délivrance pure et dure. Nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers de nos pensées. Nous sommes là et nous voulons penser à d'autres choses. Est-ce que ça vous est arrivé de vraiment dire, il y a des choses qui tournent en boucle et vous aimeriez bien penser à autre chose, mais vous êtes prisonniers? Ça m'est arrivé à moi. Et c'est pas du tout beau. Et ça sape toute votre force. Ça sape toute votre énergie. Ça sape toute votre victoire en Christ. Vous pouvez pas gagner la victoire de la foi. Parce que dans votre esprit, ce qui tourne en boucle, ce sont ces pensées qui déforment votre manière de voir le monde. Et là, vous avez besoin d'être délivré. Je vais vous raconter une histoire de ça dans juste un moment. Paul a dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. » Jésus est notre salut, n'est-ce pas? Alors, c'est lui le casque sur notre tête. Et c'est le casque qui protège la tête, qui protège le cerveau, qui protège les pensées. Et quand nous remplissons vraiment par la parole, par la prière, par la communion fraternelle avec les frères et les soeurs, nous remplissons notre tête avec la parole, avec Jésus, ça nous protège et ça nous donne un espoir. Vous voulez me entendre, vous voulez savoir où est l'endroit le plus triste de toute la France? L'endroit où il n'y a pas d'espoir. Vous visitez l'hôpital psychiatrique. Là, plusieurs fois, j'étais en tant que pasteur, je suis allé, et c'est déprimant. Parce que souvent, les gens ont perdu l'espoir. Et quand on perd l'espoir, des fois, on perd tout. Mes amis, Jésus est venu pour nous donner de l'espoir. C'est Jésus qui est notre espoir. Ne laissez pas ces pensées négatives de découragement, de frustration, de je ne sais pas quoi. Ne les laissez pas vous enlever votre espoir. Parce que quand vous n'avez plus d'espoir, ça va déformer toute votre relation. Souvent, nous prêchons dans l'église contre l'adultère, contre tous ces autres péchés de la chair. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est parce que le chrétien n'a pas la joie que le Seigneur veut lui donner qu'il cherche ailleurs. Et si nous, en tant que chrétiens, nous ouvrions le cœur à ce que Dieu veut faire et aux pensées du Seigneur et à ce qu'il veut faire dans notre cœur, ce qui va arriver, c'est que nous n'aurons plus besoin d'aller ailleurs pour chercher ce que nos cœurs désirent, ce que notre cœur réclame, parce que nous l'aurons en Jésus-Christ. Mais c'est nous qui décidons, c'est nous qui décidons. Il dit aussi la deuxième chose, dans ton cœur, arrêtez de dire « si seulement, oh si seulement, mon mari ne m'avait pas quitté, ma femme n'avait pas fait cela ». Mes enfants étaient comme ça. Si seulement le patron m'avait donné ce qu'il a dit qu'il allait faire. Si seulement ceci. Si seulement j'étais de ce pays au lieu d'être du pays où j'étais. Si seulement ça allait mieux. Si seulement, si... Arrête. Ne vivez pas dans ce petit monde de rêve que vous voulez. Vivez avec les pieds sur terre et le cœur dans les cieux, dans les lieux célestes, parce que Dieu, il vous donne une vie. Et si vous êtes toujours en train de réfléchir sur de penser à hier, ou bien même demain, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien d'avoir des buts dans la vie. Mais maintenant, c'est aujourd'hui que Jésus veut remplir ton cœur de joie. Il veut vous guérir des blessures du passé. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Je ne dis pas qu'à un moment donné, ça va tourner un peu. Mais on était dans le sud de la France une fois pour une mission. Et là, il y avait une dame qui voulait parler avec mon épouse. Et elle dit, oh, tu sais, mon mari, il y a 20 ans, il m'a quitté pour elle. Je crois que c'était 20 ans, il m'a quitté pour un autre. Alors sa fille, qui était adulte, qui était là, oui, papa, il a fait ça, il a fait ça. Et oui, il a fait ça. Elle dit, attends. Et Félix lui a parlé, mais il y a 20 ans, ce voyou, il t'a fait ça il y a 20 ans et tu le laisses faire depuis 20 ans. Chaque jour de ta vie, il t'a de nouveau parce que tu n'es pas délié de ça. Parce que vous savez, mes amis, quelqu'un peut m'avoir une fois, mais pas plus qu'une fois. Mais chaque fois que je repasse en boucle ce qui m'est arrivé, il m'a de nouveau. Et de nouveau. Et de nouveau. Et de nouveau. Il ne peut pas demander mieux s'il ne m'aimait pas. Pourquoi? Parce que je le laisse faire tous les jours de ma vie. Mais le jour que j'ai dit, arrête ça, ce n'est pas et si, c'est fini. Ce que j'ai, c'est maintenant et ce que le Seigneur me donnerait pour le futur. Arrêtez de dire et si. Il a dit, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Troisièmement, méditez la parole. J'ai dit troisièmement, vous serez content de savoir qu'il n'y a que 20 points là. C'est pas vrai. C'est pas, je vous le dis, il dort, mais ça va. Méditer la parole, ce n'est pas seulement le lire ou écouter. Chacun des 10 espions avait entendu la parole de Dieu autant qu'il l'avait. Chacun avait des 10 commandements. Chacun avait la loi de Dieu parce que Moïse avait enseigné tout ça. Chacun était le peuple de Dieu qui avait les promesses qui ont été données à Abraham, Isaac et Jacob. Chacun avait des pères qui avaient la promesse de chacun. Mais 10 sont tombés et 2 sont devenus victorieux. Pourquoi? Je crois que parce que les 2, ils avaient pris Dieu pour plus grand que les géants. Caleb a dit, mais les géants, on va les manger. Ils seront du pain pour nous. Il a dit, et là quand Dieu a parlé, il a dit, mais vous m'avez méprisé. Et combien de fois nous lisons la parole de Dieu comme un roman policier, comme quelque chose, oui c'est bien, et nous chantons ces chants, et nous vivons dans le monde comme les gens qui n'avaient pas un Dieu. Lèvez-vous, prenez la parole de Dieu, lisez-la, mais mettez-la comme une partie de ta vie. Méditez-la durant ta journée. Ce n'est pas assez seulement pour le lire le matin, Mais méritez-la. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu dans la campagne, pas dans le temps? Laisse-moi avoir la main. Très, très haut. Alors, vous connaissez sans doute les vaches. Les vaches, ils ont un drôle de choses qu'ils font. Ils ont 7 estomacs, si je me souviens bien. J'aimerais bien avoir 7 estomacs-là, parce que j'aime bien manger. Mais là, c'est différent. Là, elle mange le matin, elle broute, et puis Guy, elle se met sur un arbre. Là, dans l'ombre, là, elle est en train, et, excuse-moi les femmes, mais, bah, elle fait son rot, et elle remange, elle rumine ce qu'elle a déjà mangé. Et voilà l'image d'un chrétien qui mange le matin et puis, durant toute la journée, il fait son rot, excusez-moi, mais et aussi, il mange, il rumine, il pense, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il prend cette parole qu'il a lue, il l'applique à sa vie. Il s'arrête et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Méditez la parole, faites-la une partie de ta vie. Et puis, maîtrisez vos pensées par la puissance du Saint-Esprit. Paul a dit, emmenez toute pensée captive à Jésus. Vous ne pouvez pas toujours décider ce qui entre dans votre cœur, dans votre esprit, mais vous pouvez décider ce qui reste. Vous ne pouvez pas toujours décider ce qui entre. Il y a des pensées qui viennent de partout. Il y a des tentations, il y a des frustrations, il y a toutes sortes de choses qui viennent dans votre esprit, mais c'est vous qui décidez ce qui reste. Et si vous laissez ces pensées de frustration, de doute, de jalousie, de toutes sortes de... Je peux nommer une dizaine, une vingtaine. Si vous laissez, ce sont des semences qui vont pousser, qui vont pousser, qui vont pourrir votre vie. Ces pensées toxiques, ces pensées toxiques. Maîtrisez vos pensées. Ne laissez pas cette chose tourner en boucle. Cassez la boucle. Changez le chant. Mettez de la musique qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Faites ce qu'il faut pour changer vos pensées. Même si vous devez partir pour un jour ou deux, faites quelque chose pour que ça ne tourne plus. Parce que mes amis, ça vous tuera si vous laissez faire. Puis attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Il y a un lien étroit entre ta bouche et ton cœur. Alors, je sais qu'il y a des frères qui ont fait une exagération. Moi, je confesse que je vais avoir 3 Mercedes et un Porsche. J'aimerais bien, mais je ne vais pas gaspiller ma foi pour ça. Amen. Le Seigneur me donnera ce qu'il faut pour rouler comme il faut. Et ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de faire la volonté de mon Seigneur. Mais il y a quand même un lien. Quand la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais en quelque sorte, je crois qu'il y a des fois quand notre cœur entend notre bouche et il dit, oui, c'est vrai. Si vous êtes toujours en train de dire, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oh là là, c'est terrible. Oh, ma vie est misérable. Oh, misérable que je suis. Oh, pauvre moi. Ton cœur dit, oui, tu as raison. Oui, oh là là, on lâche. Et puis à la fin, ton cœur est découragé. Tout le monde qui t'entend, ils sont découragés. Tout le monde. Oh. Oui. Mais si tu dis, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je sais que Dieu est avec moi. Mon défi pour cette année, c'est Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Combien de fois déjà je me suis dit, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Qui me séparera de l'amour de Christ? Mes amis, Dieu est avec moi. Laisse ton cœur entendre ta bouche proclamer des belles choses. Si on disait certaines choses de notre épouse, comme nous parlons de Dieu, notre épouse, elle va nous donner un coup de poing. Amen. Parce que nous insultons Dieu par nos paroles. Comme ces gens-là, ils étaient 40 ans dans le désert, ils avaient vu la gloire de Dieu, mais quand il fallait vraiment avoir la foi, ils se sont plaints, ils ont plu, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont insulté Dieu par leur parole. Et combien de chrétiens par leur parole et la pensée de leur cœur, ils insultent le Seigneur. Entourez-vous des aides de votre foi, des gens qui sont positifs. Il y a des gens qui sont toxiques, vraiment. Alors certains, vous ne pouvez pas vous séparer parce que vous êtes mariés avec eux. Mais cherchez des amis chrétiens. Cherchez des amis qui ne sont pas seulement chrétiens, mais qui ont de la foi, qui vous inspirent. Écoutez des prédications. Lisez les livres qui vous encouragent. Regardez des émissions qui vous encouragent. Si vous passez toute l'après-midi en train de regarder les feux d'amour, vous n'allez pas être victorieux. Amen. Vous allez avoir, moi j'ai assez de problèmes sans regarder les problèmes des autres. Amen. Remplissez votre esprit. Soyez comme Caleb, animé de notre esprit. Soyez animé de notre esprit. Nous avons Jésus-Christ comme Seigneur. Il a vaincu l'ennemi à la croix de Calvaire. Ce n'est pas de blablabla, c'est une réalité que j'applique à ma vie. Hein? Beaucoup de chrétiens, ils disent des mots, mais c'est des lèvres, et pas plus que ça, ça ne descend pas jusque le cœur. On chante des chants, on connaît des versets bibliques par cœur, et quand ça ne va pas, on panique, on perd tout, on tombe dans la dépression, on est frustré, on parle d'une manière qui est terrible. Non. Mes amis, nous avons un autre esprit. Nous ne sommes pas parmi eux qui vont errer 40 ans dans le désert. Nous sommes Caleb et Josué. Nous sommes ceux qui ont de la foi en Jésus, bien que ça soit difficile. Et c'est vrai qu'il y a des géants dans le pays devant nous. Mais notre Dieu est plus grand que les géants. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, c'est le travail de toute une vie. De toute une vie. C'est encourageant, n'est-ce pas? Mais nous pouvons vraiment, vraiment faire ce que Dieu veut. Paul dit en Philippiens 4, et bon, tout le chapitre, mais à partir du verset 4, je vais lire seulement le verset 8, mais là, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui me fâche, que tout ce qui me met en colère, que tout ce qui est injuste, que tout ce qui m'ont fait de mal, que toutes les personnes que j'aime pas parce qu'ils sont comme ça, que toutes les personnes qui m'auraient dû faire ça mais l'ont pas fait, soit le sujet de votre pensée. Est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les autres, mettez-les à la porte et fermez la porte à clé derrière. Et si tu les vois, jetez-les par la fenêtre, ne les laissez pas rester dans votre esprit. Il y avait une période de ma vie, à peu près il y a 30 ans de cela, et je suis passé... Ah, je ne sais pas si c'était la dépression ou quoi, mais ça n'allait pas du tout. C'était tout un contexte, toute une situation. Je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails et je ne le ferais pas si j'avais le temps. Mais là, j'étais tout à fait en bas. Ça allait jusqu'à un point où je me suis agenouillé une fois pour prier, je me souviens. Et là, au lieu de prier, ça tournait en boucle, ces autres personnes, cette autre chose, cette situation, ça tournait, jusqu'à ce qu'un jour, dans mon cœur, ça a explosé, disons, c'était comme si j'étais mort à l'intérieur. Et je me souviens d'être dans une réunion, des réunions en Suisse, avec des frères et des sœurs, et j'étais au plus bas. Et je me suis dit, David, tu es nul. Tu ne vaux rien, les autres ça va, mais toi, tu es nul. Et ça, et j'étais en bas. Au moins, je me suis levé et je suis allé dans la réunion. Et ce jour-là, où je me sentais si nul, dans ce terrain de mort, Dieu, il a laissé tomber une graine d'espérance. L'espérance, elle est forte. L'espoir, il est fort. Il n'a pas besoin de beaucoup, un petit peu, et ça fait beaucoup. Et dans mon cœur, ça est tombé. Et je me dis, mais peut-être il y a de l'espoir. Par la suite, le Seigneur a réglé toutes ces situations qui m'ont tracassé. Il a fait au-delà de ce que je pensais et tout ça. Mais en ce moment, comme je dis, quand on est en bas, on est en bas. Et je voulais abandonner. Mais au lieu d'abandonner, je suis allé au Seigneur. Il a laissé tomber un grand espoir dans ma vie. Ce soir-là, dans la deuxième réunion, À la fin, je me suis approché devant. J'ai levé les bras devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur. Et cette petite goutte d'espoir est devenue vraiment de la pluie du ciel. Dieu, il a balayé toutes ces pensées négatives, il a balayé toutes ces choses qui me détruisaient, il a arrêté la boucle qui tournait en moi et ça commence une nouvelle boucle, la joie et la paix du Seigneur. Alors, est-ce que c'était toujours facile après cela? Non. Les mêmes pensées sont revenues souvent, mais la différence cette fois-ci, je l'ai dit non, 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 non. Puis je l'ai remplacé avec la foi en Jésus. Je ne peux pas dire que je suis le plus fort, que je ne tombe jamais, mais je dis une chose, que Dieu est fidèle. Et ma petite partie plus sa grande partie, on a tué ces géants. Et Dieu m'a donné un autre esprit, une autre manière pour voir le monde. Et c'est indispensable pour toi aussi que tu sois délivré de ces pensées qui te tue, ces attitudes intérieures, ces dispositions qui te tuent, et que tu sois libre de vivre comme Jésus veut que tu vives, avec sa joie et sa paix, sa victoire. C'est notre choix. Dieu est là, il est prêt. Mais c'est nous qui prenons la décision de ce qui se passe dans notre cœur. Seigneur Jésus, merci. Si tu nous as dit d'emmener toute pensée captive à Christ, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mes frères, mes sœurs, parce que même, je sais que bien que nous soyons chrétiens, ça nous arrive à tous, des fois, d'avoir des combats horribles dans notre cœur, dans notre pensée. Seigneur, je prie pour ceux qui sont prisonniers des pensées aujourd'hui, qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu laisses tomber un grain d'espoir et qu'il entretienne ce grain d'espoir jusqu'à ce que ça pousse un arbre de bons fruits, Seigneur, de tous les fruits de l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui chasse toutes ces pensées qui ne sont pas de toi, qui ne les laisse pas prendre d'accueil dans le cœur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Maintenant, pendant que l'équipe de louange chante un chant, j'aimerais bien, dernière chose, vous qui êtes là, et devant le Seigneur, vous dites, moi je suis prisonnier de mes pensées, certaines pensées, ça tourne en boucle, ou bien je suis prisonnier d'un esprit négatif et vaincu, ou je suis, vous savez, mais devant Dieu, vous voulez faire une annonce aujourd'hui devant Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par ta puissance, ça va changer. Ça va changer. Par ta puissance, je ne suis pas assez fort moi-même, mais je prends les armes de Dieu pour vaincre l'ennemi, pour vaincre ses pensées. Quand ça revient, je ne le laisse pas. Mais aujourd'hui, je prends la victoire. Si vous voulez vraiment prendre une victoire dans cette partie de votre vie, mettez-vous debout, levez la main et dites, Jésus, me voilà, Seigneur. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux.
Restez dans vos cœurs. Que vous laissez Dieu vous surprendre, se manifester en vous encore dans les jours à venir. Que ce soit quelque chose que vous conservez en vous vraiment de tout votre cœur. Vous avez décidé aujourd'hui de le suivre, de laisser à nouveau Dieu rentrer dans vos vies.